C'est l'association Les Détras Queers qui va intervenir avec Birgit et Pierre sur les identités de genre, voilà, qui ont préparé une conférence animée. Et je vais intervenir en soutien de manière très silencieuse, vous le verrez tout à l'heure.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Pourquoi parler des orientations sexuelles sur une conférence de genre ?
Parler de genre, c'est parler de la façon dont nous construisons en tant que femmes et en tant qu'hommes, mais aussi de la façon dont le genre influence nos relations avec les autres. Nous verrons que si la division femme-homme n'était pas si forte, la bisexualité et l'homosexualité ne dérangeraient pas autant.
Partie 1. The gender-bred person, la personne genre. Alors, the gender-bred person, il s'agit d'un jeu de mots anglais, parce qu'un pain d'épices en anglais, c'est un gingerbread. Et donc, ginger, genre, gender. On a créé le gingerbread était créé pour parler plus facilement du genre.
On peut alors dire la personne gingembre.
Tout à fait. Alors, commençons par le plus simple, ou peut-être pas. Le sexe biologique. Alors, le sexe biologique, c'est l'ensemble des caractéristiques sexuelles physiques, primaires et secondaires. Ça me semble simple et clair, non ?
Oui.
Il n'y a pas de question sur ça, c'est clair. Des caractéristiques sexuelles.
Je ne suis ni transsexuel, ni hermaphrodite, ni androgyne. Et pourtant, j'ai 5 sexes. Vous aussi d'ailleurs. Nous avons tous 5 sexes. Nous possédons un sexe génétique, XX ou XY, un sexe anatomique, pénis ou vagin, un sexe hormonal, testostérone ou progestérone, un sexe social ou genre, homme ou femme, et un sexe psychologique, masculin ou féminin. Comme en général, ces sexes coïncident et se superposent, nous ne nous rendons pas compte de cette diversité. Nous avons l'impression de n'en avoir qu'un seul. Ici, il s'agit d'une liste de critères pour définir le sexe d'une personne. Et on y trouve 3 critères biologiques.
Ok, donc je pense qu'il faut parler plutôt des sexes biologiques en pluriel. Le prochain point d'interrogation concerne le sexe assigné à la naissance. Le sexe assigné à la naissance, c'est le sexe déterminé au moment de la naissance par la déclaration d'état civil. Il peut varier du sexe biologique. Comment ça ?
Parfois, on se trouve devant une situation ambiguë où aucun des 2 organes n'est pleinement affirmé. Cela pose un redoutable problème pour les parents et les médecins, car ils doivent prendre une décision grave. Depuis les années 1950, on a procédé à des opérations chirurgicales visant à supprimer le sexe le moins développé, puis on a administré un traitement hormonal à l'enfant. Mais cette intervention précoce pouvait avoir de graves conséquences lorsque, arrivé à l'adolescence, l'individu ne se reconnaissait pas dans le sexe qui lui avait été assigné. Depuis les années 1990, les associations d'intersexes se sont mobilisées pour s'opposer aux interventions précoces et imposées qui sont assimilées à des formes de maltraitance tant que la personne n'a pas choisi elle-même une éventuelle intervention. Certains intersexes n'envisagent d'ailleurs pas de changer leur état et revendiquent une identité intersexuée spécifique, distincte de la bipartition homme-femme.
Mais est-ce que ça arrive souvent, des nouveaux-nés entre deux sexes ?
Alors, selon la campagne pour finir l'arrêt des mutilations des enfants intersexes, coordonnée par le collectif intersexe activiste All France, 1,7% de nouveaux-nés sont intersexes, soit plus de 13 000 par an en France. Plus de 40 variations existent. Elles sont détectées à la naissance, dans l'enfance, à la puberté ou même à l'âge adulte.
Ok, donc je pense qu'on devrait vraiment compléter le point sexe biologique. Alors, je propose qu'on le définisse ainsi. Les sexes biologiques sont l'ensemble des caractéristiques sexuelles physiques qui permettent la différenciation des corps selon un éventail allant des corps strictement féminins aux corps strictement masculins en passant par les corps intersexués. À partir de maintenant, je vais symboliser cet éventail par un astérisque. Pourrais-tu nous faire un petit bilan intermédiaire, s'il te plaît ?
L'idée qu'il n'existe que deux sexes est profondément ancrée dans la culture occidentale. La langue elle-même refuse toute autre possibilité. De même, au regard de la loi, tout adulte est soit un homme, soit une femme. Et la différence, bien entendu, est loin d'être anodine. Aujourd'hui, cela signifie être obligé de faire son service militaire ou en être exempté, mais aussi être sous la coupe de certaines lois concernant le mariage, la famille ou l'intimité de chacun. Mais si l'État et le système juridique trouvent leur intérêt dans le maintien d'un système sexuel bicatégorisé, ils sont contre nature. En effet, d'un point de vue biologique, il existe de nombreuses gradations entre la femelle et le mâle. Les critères varient selon les personnes.
Partie 3. Identité et expression de genre. Alors, très bien, passons au prochain point d'interrogation, l'identité de genre. Une personne peut s'identifier comme homme, s'identifier comme femme, ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles, ou alors en dehors de cette binarité. L'identité de genre est complètement indépendante de son sexe biologique, et également de son sexe assigné à la naissance. Parce que c'est la perception qu'une personne a d'elle-même envers elle-même. L'identité de genre n'est pas nécessairement extériorisée et peut donc demeurer invisible au regard des autres. C'est clair ?
Très clair.
Parfait. Ensuite, l'expression de genre. Alors, l'expression de genre, c'est l'ensemble des signes visibles pour l'entourage associés à l'appartenance à un genre, féminin, masculin, autre. Il peut s'agir, entre autres, de la façon de s'habiller, de parler, de se comporter. Donc, l'expression de genre peut être l'extériorisation de son identité de genre, qui est, je rappelle, indépendant du sexe biologique et indépendant du sexe assigné à la naissance. Mais c'est aussi possible qu'il y a une différence entre l'identité de genre et l'expression de genre, donc de ce qu'une personne manifeste dans son aspect extérieur.
Comment ça, une différence entre l'identité et ce qu'une personne manifeste dans son aspect extérieur ?
Par exemple, une personne qui s'identifie plutôt non-binaire. Disons, une personne qui s'identifie non-binaire, soit parce qu'elle ne se retrouve pas complètement dans le féminin, ni dans le masculin, ou un jour plutôt féminin, l'autre jour plutôt masculin, mais qui porte quand même des vêtements dits de femme. As-tu déjà essayé de trouver des vêtements neutres ? Ça existe ?
L'unisexe, la solution ? Certaines marques ont compris depuis longtemps que les différences de genre dans le vêtement n'étaient pas indispensables, que les femmes avaient aussi droit à du pratique et des hommes à de l'esthétique. En 1963, le couturier Ted Lapidus fait scandale. Sa première collection mélange le masculin et le féminin. S'y trouvent des manteaux et des vestes de costume portées aussi bien par les hommes que par les femmes. C'est à cette époque que le mot unisexe se popularise pour désigner cette mode qui fait fi des frontières de genre. Aujourd'hui, on parle plutôt de genderless.
Mais est-ce que ces vêtements sont-elles vraiment unisexes ?
Les vêtements, ils sont unis et relativement amples. Pas de frou-frou, de motifs foufou, de tenues moulantes et échancrées. L'unisexe, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est surtout le règne des vêtements dits de mec. On y trouve ce qu'on appelle des basiques, t-shirts et chemises unies, des sweatshirts larges, très larges, des shorts, des pantalons, des manteaux, des vestes, des blazers. Pas de jupe, pas de robe. Les créateurs ont essayé. Jean-Paul Gaultier, Yoji Yamamoto et Vivienne Westwood ont tenté d'imposer la jupe pour hommes, mais elle n'a jamais eu le succès escompté, à part dans les garde-robes de stars. Ces dernières années, sur les tapis rouges et dans les shootings mode, la jupe pour homme est presque devenue un must-have.
Bon, ok, ça c'est valable pour les adultes, mais les enfants, j'espère qu'elles échappent de cette binarité, j'espère.
Le rose et le bleu ont presque disparu, mais pas les rayons genrés. Les bébés ont beau avoir exactement les mêmes corps et besoin d'exactement les mêmes vêtements. Il faut choisir rayon fille avec des cols Claudine et des motifs à fleurs, rayon garçon avec des cols ronds et des motifs tracteurs. Et comme leurs aînés, les garçons n'ont droit ni aux jupes ni aux robes. Pour eux, c'est plutôt salopettes et pantalons.
Ah! Bon, mais ce choix limité à deux extrêmes existe-t-il uniquement pour les vêtements ?
La fabrique des filles et des garçons. L'une des avancées majeures de la sociologie du genre a consisté à révéler, exemple après exemple, les manières dont, dès les premiers moments de l'enfance, garçons et filles sont socialisés de manière différente. Les parents, les pères, les soignantes, les médias ou les enseignants-enseignantes participent de manière toute naturelle à fabriquer des filles et des garçons qui vont majoritairement se comporter de manière féminine et masculine une fois devenus adultes. Ces socialisations affectent aussi bien les corps que les pensées, les gestes que les paroles, les apparences que les sentiments. Elle se réalise de manière quotidienne, dans l'interaction, mais aussi en lien avec l'organisation sexuée des espaces ou des apprentissages.
Et pourquoi cela pose un problème ?
Ouais. Diviser les enfants entre filles et garçons n'est pas seulement sexiste. Ça n'a tout simplement aucun sens. Prenons l'exemple du sport. Chez les adultes, les fédérations justifient la division femmes-hommes par les différences de musculature qui peuvent exister. Ces écarts de force physique, que l'on a déjà décortiqués dans le chapitre 1, n'existent pas chez les enfants, et pour cause. Elles et ils ne sont pas encore passés par la puberté et la quantité de testostérone dans leur corps, à l'origine de la musculature, est identique. Avant l'adolescence, les filles et les garçons ont donc exactement les mêmes aptitudes physiques.
Ah, mais d'où viennent alors les différences de force qui peuvent exister entre filles et garçons ?
Une équipe de recherche a observé comment des bébés de 11 mois se déplaçaient à quatre pattes. Surprise. Ou pas. Aucune différence de performance n'a été notée entre les filles et les garçons. Cela n'a pas empêché les mères de filles de sous-estimer leurs capacités et celles de fils de les surestimer. Des pensées qui se traduisent par des mots, des remarques, des attitudes qui marquent et influencent les enfants.
Tu veux dire que les filles finissent par croire ce qu'on leur répète sans cesse, d'être naturellement plus lentes et plus faibles, et qu'elles n'osent plus d'utiliser et d'entraîner leur corps de la même façon que les garçons, avec le résultat que finalement elles sont moins fortes.
C'est tout à fait possible.
Alors, à propos des différences biologiques, nos cerveaux sont-ils masculins ou féminins ?
La neurologue Catherine Vidal mène ainsi la démonstration sur le seul cas des supposées différences de cerveau entre garçons et filles. À la naissance, seulement 10% de nos 100 milliards de neurones sont connectés entre eux. Les 90% de connexions restantes vont se construire progressivement au gré des influences de la famille, de l'éducation, de la culture, de la société. Les images IRM réalisées auprès de chauffeurs de taxi, de pianistes professionnels ou de jongleurs indiquent les fortes variations cérébrales liées à cette simple différence professionnelle, parfois démarrée à l'âge adulte. La plasticité du cerveau va leur permettre les apprentissages sexués dès le plus jeune âge. Les différences individuelles entre deux enfants étant bien plus déterminantes que celles entre garçons et filles.
J'aimerais bien faire une interview avec cette Catherine Vidal. Bonjour Catherine Vidal. Vous êtes neurobiologiste et directrice à l'Institut Pasteur.
Bonjour, journaliste du Monde.
Alors, le cerveau du fœtus se forme-t-il différemment au cours de la grossesse selon que l'enfant à naître est une fille ou un garçon ?
Non, il n'y a pas de différence anatomique entre les cerveaux des filles, des fœtus filles et garçons. Les gènes qui permettent de construire les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral sont en effet indépendants des chromosomes X et Y. Le schéma structurel est donc exactement le même. La seule différence que l'on peut relever concerne le contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction. Les ovaires et les testicules, qui sont formés dès la 8e semaine de grossesse, produisent en effet une hormone différente chez le fœtus féminin et chez le fœtus masculin. Respectivement, la FSH, hormone folliculo-stimulante, et la testostérone. Il a été démontré que la testostérone produite pendant la vie fœtale influence une partie du cerveau, l'hypothalamus, qui va fonctionner différemment chez les filles et les garçons. À la puberté, des neurones vont ainsi s'activer chaque mois dans l'hypothalamus des jeunes filles pour déclencher l'ovulation, une activité absente du cerveau masculin. En revanche, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives, telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement, ou sensorielles, comme la vision ou l'audition. C'est ce qui se passe après la naissance qui compte le plus. Les interactions de l'enfant avec son environnement social, affectif, culturel vont en effet jouer un rôle majeur dans la construction du cerveau.
Le cerveau continue donc de se former après la naissance de l'enfant ?
En grande partie, oui. Il faut comprendre que les processus de développement intra-utérin du corps et du cerveau sont différents. À la naissance, le corps est bien plus achevé que le cerveau. C'est-à-dire que l'on naît avec de petits poumons, un petit cœur et de petits muscles. Ensuite, notre corps va se contenter de grandir. Mais il a été largement formé pendant la grossesse, ce qui n'est pas le cas du cerveau. Si nos 100 milliards de neurones se fabriquent lors de la vie intra-utérine, les connexions entre eux ne sont établies qu'à 10%. Or, le cerveau ne fonctionne que si les neurones sont connectés entre eux. La majorité des milliards de connexions neuronales se construisent à partir du moment où l'enfant est en interaction avec son environnement.
C'est donc la socialisation qui forge nos cerveaux ?
La société, l'environnement, les expériences. Nos cerveaux sont plastiques. Ils se façonnent en fonction de notre histoire. Et comme chacun de nous a la sienne, nous avons tous et toutes des cerveaux différents. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Ce sont 7 milliards de personnalités différentes et 7 milliards de cerveaux différents.
Les différences sont-elles plus nettes entre les cerveaux d'un homme et d'une femme qu'entre deux personnes du même genre, du même sexe ?
Absolument pas. Il est d'ailleurs impossible de deviner, en regardant un cerveau adulte, s'il appartient à un homme ou une femme. Si vous alignez des cerveaux les uns à côté des autres, ce que vous remarquez tout d'abord, ce sont de grandes différences anatomiques. Aucun n'est pareil. En l'occurrence, les différences observées entre les cerveaux de personnes d'un même sexe sont bien plus importantes que les différences éventuelles entre les sexes.
Merci Catherine Vidal pour cette interview. Partie 4. L'attirance. Alors, ce que j'ai compris jusqu'ici, le sexe ou les sexes biologiques de l'être humain n'est pas aussi binaire que ce que j'ai appris à l'école. Et le genre est tout d'abord une construction culturelle qui est dans notre société très binaire. Mais du coup, existe-t-il d'autres constructions de genre dans d'autres cultures ?
Oh oui, bien sûr. Les two-spirits, Amérique du Nord, ce mot créé en 1990 désigne les personnes s'identifiant à un troisième genre dans les tribus autochtones. Chaque tribu avait sa propre appellation. Les personnes two-spirits ne sont ni hommes ni femmes et sont aujourd'hui souvent victimes de discrimination. Les Mujeres, Mexique. Dans la région du Tehuantepec, sud du Mexique, existent les hommes, les femmes et les Mujeres. Il s'agit de personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin ni au genre féminin. Ce qui est d'autant plus facile que dans leur langue traditionnelle, le zapothèque, il n'existe pas de genre grammaticaux. Les Kalalais, les Kalabais et les Bisus, Indonésie. Chez les Bugis, en Indonésie, existent 5 genres, parmi lesquels les Kalalais, personnes nées filles, adoptant des rôles d'hommes, et les Kalabais, personnes nées garçons, adoptant les rôles de femmes. Les Bisus ne sont ni hommes ni femmes.
Intéressant. Et j'imagine qu'il s'agit juste de 3 exemples parmi plein d'autres. Alors, il nous reste encore un point d'interrogation sur la personne genre. C'est l'attirance. L'attirance est la réponse émotionnelle dont le résultat est le désir d'avoir une relation romantique et ou sexuelle avec la personne qui est le sujet de l'attirance. Et bien entendu, l'attirance est complètement indépendante de tout le reste. Vu que notre société ne laisse que peu de choix concernant le sexe biologique et l'identité de genre, j'imagine pour l'attirance, c'est aussi limité.
Je venais de débarquer. J'étais mineur. Je n'avais qu'une position, assise. Et on essayait de me faire entrer des idées dans la tête que j'ai dure, qui me contrariaient fort. Grantin, sur la base de tes organes génitaux, nous avons établi pour toi un programme à vie, et en plus un programme pourri, appelé « Être une femme » ou « Être un homme ». C'est pile ou face. Parce qu'on s'est dit que 2 équipes, les bourreaux et les victimes, c'est bien pour rejouer toujours les mêmes scènes de domination. Grand 2, c'est un jeu qui se pratique partout, dans la rue, dans les chiottes, dans les cours de récré. Mais le but ultime, c'est de le pratiquer quotidiennement, chez toi, dans ton salon et dans ta chambre, avec un membre de l'équipe opposée. Ça s'appelle le couple. Grand 3, c'est ça l'amour. Et aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voyez, moi, qui voulais devenir une personne et entretenir des relations avec d'autres personnes, j'étais contrarié. On est plusieurs à être alors restés sur le banc de touche, à regarder dubitativement nos organes génitaux. On est si peu de choses.
Ou alors, on imagine un monde où on cesse de se comporter comme une femme ou comme un homme. On habite, travaille et aime les personnes qui nous sécurisent et nous garantissent des liens de réciprocité. On désire et trouve du plaisir dans le consentement mutuel avec tous les types de corps, vu qu'ils sont tous les mêmes terminaisons nerveuses. Et les deux ou trois fois de sa vie où on veut se reproduire, on va chercher les gamètes adéquats auprès du ou de la productrice locale.
Merci. Je ne pensais pas que j'allais tenir le micro si longtemps. Je ne vous aurais pas dit oui sinon. Est-ce que vous voulez lire vous-même votre question ou je le fais ? Je le fais. Non ? Vous le faites. J'y vais. Faites-le. Alors, quel accompagnement préconisez-vous lorsqu'une personne fait une transition identitaire ? Y a-t-il besoin d'une coordination ? Si oui, qui peut coordonner ?
Bon, alors, on est pas une association spécialisée dans les questions de transgenre, transidentité. Il y en a à Brest, donc Palantrons. S'il y a une personne qui s'adresse avec des questions plus ou moins précises autour de questions de transition de genre, de sexe, moi j'adresse ces personnes à Palantrons parce qu'elles sont beaucoup plus performantes sur des questions. Mais ce que je sache... Un accompagnement, ça dépend toujours parce qu'il y a, tant de différents chemins de transition. Mais quand on commence une transition physique, corporelle, je pense à une certaine organisation est quand même aidant. Mais voilà, pour toutes les questions précises, pour ça, d'autres associations. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre ?
Cette association Parlons Trans, dont on ne peut que saluer le travail qu'elle opère, connaît sur la ville de Brest donc un médecin, connaît des psychologues, etc. Et donc ça rejoint un peu ce qui a été dit. Ce sont, comment dirais-je, des équipes entières qui sont destinées à accompagner ce moment de la transition qui est quand même un moment toujours extrêmement émouvant et qui modifie quand même tout à fait considérablement donc les personnes qui la souhaitent.
Est-ce qu'il y a d'autres questionnements ? Je sens qu'il fait très très chaud. Vous n'en pouvez plus, non ? C'est ça ? J'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions quand même, une ou deux questions pour terminer ? Oui, Regan.
Dans le sigle LGBTQI+, qui maintenant fait référence, LGBTI, vous les avez très très bien précisés, en particulier le I dont on n'entend pas assez parler, qui est souvent invisibilisé, qui renvoie aux personnes intersexes. Il reste, c'est un peu la journée je crois, mais il reste le Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce qu'on appelle queer ?
Alors, il n'y a pas une réponse pour définir le terme queer. Déjà, pour revenir un peu à l'histoire, dans le monde anglophone, le terme queer, qui veut dire bizarre en français, était utilisé il y a longtemps, et assez longtemps, pour désigner toute personne qui sort de la norme d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, à une époque où on n'a pas parlé de ces deux termes-là. Donc une personne queer, c'était une insulte pour une personne qui ne répondait pas tout à fait aux attentes de la société sur le plan identité de genre ou orientation sexuelle. Après, les communautés LGBTQ+, ont récupéré ce terme en disant « Ok, si vous dites que je suis bizarre, ben, je le suis avec fierté. » C'est pourquoi on trouve aujourd'hui le mot « queer » comme une étiquette portée avec fierté, avec joie, avec conviction, avec tout ce qu'on veut. Dans la théorie queer, donc vous trouvez plein de définitions. Moi, je dirais ce qui est le plus important et qu'on retrouve dans quasi toutes les définitions théoriques, parce qu'il y a toute une théorie queer, c'est le refus, le rejet de la binarité ou des binarités. Donc, le monde n'est pas si blanc ou noir, il y a plein de nuances de gris. L'être humain n'est pas que homme ou femme. On a vu, il y a des variations entre eux. Et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire, par exemple, les termes trans et cis, là, on retrouve une binarité. Donc, je connais des personnes qui sont ni trans, mais pas cis non plus. Donc, et la théorie queer, c'est, voilà, on refuse des réponses simples et la binarité de notre société parce que la vérité ou ce qui existe est beaucoup plus variée et diverse que ça. Donc ça pour la théorie queer et pour l'utilisation de mots queer, on le trouve de plus en plus comme synonyme pour toute orientation sexuelle ou identité de genre qui sort de notre norme hétéro-patriarcale. Hétéro-patriarcale, voilà. Donc, je sais pas, dans les médias allemands, par exemple, on entend très, très peu maintenant LGBT. Par contre, le mot queer est utilisé facilement pour dire bah, tous ceux qui sont d'autres choses que hétérosexuels et cisgenres, ou en tout cas qui refusent ces normes.
S'il n'y a pas d'autres questionnements, je vous propose qu'on termine. Oh, bah, merci Pierre et Birgit.